Écoutez RTL. RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
On va s'intéresser à un sujet qui concerne évidemment des millions et des millions de Français. On va parler de voitures et de ce qu'on met dedans, surtout du diesel ou de l'essence. Premier invité des auditeurs ont la parole, c'est Laurent Eckey, directeur général de l'Observatoire Mobilité et Prospective de l'Alliance Nationale des Experts en Automobile. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Alors, on vous a invité avec Christelle, évidemment, qui va vous saluer.
Bonjour, monsieur Eckey.
Parce que la mesure était attendue, la fiscalité du diesel va augmenter de 2,6 centimes par litre chaque année pendant 4 ans. C'est Bruno Le Maire qui l'a fait cette annonce dans le quotidien Les Échos ce matin. Pour le ministre de l'Économie, personne ne peut plus comprendre aujourd'hui que la fiscalité du diesel et de l'essence ne soit pas la même. D'abord, est-ce que c'est une mesure de bon sens selon vous ?
Alors, c'est une mesure qui n'est pas surprenante puisqu'elle est annoncée, elle est en tout cas dans les débats depuis 5 à 10 ans. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le contexte était plus favorable pour qu'elle soit mise en œuvre et on s'aperçoit qu'effectivement, le gouvernement n'hésite pas à le faire. Plus favorable parce que l'opinion publique aujourd'hui a évolué vis-à-vis du diesel, très certainement. Et puis, un contexte économique favorable aussi parce qu'on a un prix du baril du pétrole qui est relativement bas puisqu'on est aux alentours de 55 euros par rapport à une époque pas si lointaine où il a pu être à 100 $ le baril.
Mais quand même, l'augmentation de la fiscalité du diesel va avoir un impact direct sur le portefeuille des automobilistes.
Alors, bien évidemment, si on a plus de taxes, on a plus de dépenses, mais je pense qu'il faut, somme toute, relativiser si on fait un petit calcul rapide pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent bien. Sur une base de 15 000 km par an pour un véhicule diesel qui peut consommer 7 litres au 100, ça fera une augmentation de l'ordre de 27 euros par an hors taxes, si on parle de 2,6 centimes. TTC, ça doit faire aux alentours de 32,40 euros, puisqu'il faut préciser que sur cette taxe, on paye aussi la TVA, c'est la taxe sur la taxe. Donc, si on ramène cette somme par mois, c'est 2,70 euros par mois. Alors, au final, effectivement, lorsqu'on aura les 4 années de rééquilibrage, on aura un différentiel de 63 euros par an, soit 5,25 euros par mois. Je pense que c'est, somme toute, une augmentation, mais relativement modérée, qu'il faut relativiser, parce qu'il y a peut-être moyen de la compenser.
Vous avez fait l'addition, vous arrivez à 27 euros par an, c'est ça, hein ?
Oui, si je pars de la première année, c'est-à-dire par an, 2,6 centimes d'augmentation sur 15 000 km par an. Il faut relativiser.
Voilà, c'est important de le préciser. Donc, on a envie de dire que ce n'est pas considérable, ce n'est pas énorme. Sauf que ça fait des années et des années qu'on vante les mérites du diesel et qu'à l'arrivée, on dit stop ou presque.
Alors, voilà, c'est aujourd'hui un grand débat sur le diesel. J'ai déjà eu le plaisir d'en discuter sur vos ondes. On s'aperçoit effectivement, j'ai entendu dans votre reportage tout à l'heure, que les constructeurs s'interrogent sur ce que sera effectivement leur mix énergétique dans le futur. Mais aujourd'hui, on a quand même effectivement près de 19 millions de véhicules dans le parc roulant qui sont des véhicules diesel. Et moi, je pense très sincèrement que cette taxation, en tout cas, n'est pas une mesure qui va dissuader les Français d'utiliser le diesel, tout simplement parce que le diesel reste plus compétitif que l'essence lorsqu'on compare le rendement énergétique d'un moteur essence à un moteur diesel. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup moins de gasoil ou de diesel pour faire exactement le même kilométrage. Donc, il faut, somme toute, bien analyser le besoin que l'on peut avoir en termes de véhicules, mais il est certain aujourd'hui que ceux qui utilisent un diesel pour des longs kilométrages le continueront à le faire, et cette mesure n'est pas dissuasive. Par contre, il est clair...
Vous dites que ce n'est pas dissuasif, pardon de vous interrompre, Laurent Eckey, mais Jean-François, quand même, ça a influencé son choix. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour Christelle.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous nous appelez de Boulay-Moselle, en Moselle, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Hein ? Vous venez de changer de voiture. Avant, vous aviez des diesels. Cette fois, vous avez acheté une essence. On fait une toute petite pause et puis vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant.
D'accord.
À tout de suite, Jean-François.
À tout de suite.
Stéphane Carpentier.
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Vous savez que c'est vous qui prenez les commandes de cette émission, c'est tout en direct bien sûr via notre page Facebook RTL Les Auditeurs ont la parole, via le standard 3210 pour vos avis sur la fiscalité du diesel qui va augmenter de 2,1 centimes par litre, donc chaque année
2,6
pendant...
centimes.
Pardon, qu'est-ce que j'ai
par
dit
an.
Une bêtise ouais, par an,
par litre et sur 4 ans.
Et sur 4 ans, vous l'avez bien résumé, vous êtes parfaite. On a Jean-François qui est donc avec nous depuis la Moselle, qui change tout lui, c'est-à-dire qui dit au revoir au diesel et bonjour à l'essence, c'est ça hein.
Oui, c'est ça, oui. J'ai dit au revoir au diesel, bonjour à l'essence, mais j'étais quand même un petit peu déçu quoi, quand j'ai changé de voiture, parce que j'avais le choix entre du diesel et de l'essence, Et quand j'ai pris l'essence, on m'a annoncé qu'il y avait une taxe éco dessus de plus de 400 euros sur l'essence, alors que sur la même voiture à côté du diesel, eh ben, c'était rien, c'était zéro, quoi. Alors, je me pose quand même la question, je me dis, on nous incite à plus prendre de diesel, mais par contre, bah, voilà, ça m'a coûté 400 euros de ma poche, quoi.
Mm-hmm. Laurent Hecquet, qu'est-ce que vous en dites?
Bah, c'est le problème du fameux bonus-malus écologique. Mmh. Ce bonus-malus étant axé sur le CO2, mmh, donc sur les émissions qui sont proportionnelles à la consommation de carburant. Comme je le disais tout à l'heure, un moteur diesel consomme moins, donc va moins émettre de CO2 et risque d'avoir un bonus là où un véhicule essence peut être malusé. Donc c'est toute l'ambiguïté de faire comprendre que ce qui était vertueux hier ne l'est plus aujourd'hui. On voit bien l'incompréhension de notre auditeur.
Mmh. Oui, après, je veux dire, moi je m'interroge quand même avec toutes les histoires qu'on a entendues sur les constructeurs qui ont un peu trafiqué les véhicules pour qu'ils rentrent dans des cases non polluantes. Je me pose quand même la question si c'est bien justifié, quoi. Est-ce que c'est bien si ma voiture est vraiment aussi polluante, plus polluante qu'un diesel ou pas? Est-ce que la même voiture en diesel n'était pas aussi polluante que la mienne? Enfin voilà, quoi. Moi je m'interroge quand même là-dessus, quoi.
Laurent Hecquet, on a du mal à s'y retrouver quand même.
On a beaucoup de mal à s'y retrouver, ça devient de plus en plus complexe. Et là, un monsieur parle d'un véhicule neuf, donc ce sont des nouvelles technologies avec des nouvelles contraintes, avec des véhicules d'ailleurs qui coûtent de plus en plus cher, hein, avec des systèmes de dépollution, que soient des filtres à particules ou des injecteurs de plus en plus complexes. C'est pour ça aussi que vous pouvez être dissuadé d'utiliser un diesel aujourd'hui si vous n'en avez pas l'usage. Si vous faites beaucoup de petits kilomètres ou de petits trajets, il est peut-être préférable parfois d'avoir un moteur essence qui est moins coûteux aussi à l'entretien.
Mais moi, je vous coupe juste, moi je suis infirmier libéral, je fais entre 35 et 40 000 kilomètres à l'année, quoi. Donc voilà, j'aurais pu effectivement me dire, bon, bah, je vais prendre un diesel, c'est vraiment intéressant, quoi. Non, j'ai fait le choix de prendre une essence, quoi. Et après, au final, je me retrouve avec 400 euros en plus. Moi qui me les rembourse, j'envoie la facture au gouvernement, ils me les rembourseront.
C'est vrai, Laurent Hecquet, qu'on a l'impression que le gouvernement nous force la main, finalement.
Oui, ben je pense que là, il faut raison garder, il faut que les consommateurs s'informent et s'informent auprès de personnes qui peuvent leur apporter des informations précises. Parce que aujourd'hui, dans le cas de monsieur, j'aurais préconisé bien évidemment l'achat d'un véhicule diesel. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a encore des ventes de véhicules diesel pour des gros rouleurs, et notamment les flottes d'entreprises. Parce que le poste carburant sera de toute façon moindre qu'un poste de carburant essence. Voilà. Après, c'est un choix de ménage en fonction de ses besoins, en fonction de la solution que l'on veut mettre en place pour sa mobilité. Mais le diesel a encore de l'avenir. Et quand je parlais tout à l'heure de la non-dissuasion d'utiliser le diesel, je parle pour ceux qui ont déjà un véhicule diesel, cette mesure ne sera pas dissuasive pour les inciter à vendre leur vieux diesel au profit d'un véhicule nouvelle génération qui coûtera plus cher à l'achat, bien évidemment.
C'est ce que voudrait pourtant Nicolas Hulot, hein, si je ne me trompe pas, le ministre de l'écologie.
Ah, c'est ce qu'il veut. Il a annoncé qu'en 2040, il n'y aurait plus de vente de moteurs thermiques. Alors là, vrai ou faux, c'est les grands débats aujourd'hui. Donc on est dans une volonté d'évolution. Mais aujourd'hui, on achète les produits que l'on trouve sur le marché. Et aujourd'hui, on trouve des moteurs thermiques. Même si les constructeurs font des efforts de développement vers des nouvelles énergies, est-ce que ce sera l'électrique? Est-ce que ce sera le gaz méthane qui est peut-être une solution crédible au mix énergétique? Voilà, quand on travaille avec les ONG sur ces grandes thématiques-là, il n'y a pas de certitude chez personne, c'est un grand débat et on va progressivement avoir une évolution dans nos moteurs pour avoir des véhicules de plus en plus propres, de plus en plus performants. Mais il n'y aura pas un type de véhicule, il y aura plusieurs énergies dans le catalogue.
Voilà, c'est Laurent Hecquet de l'Alliance Nationale des Experts en Automobile qui nous éclaire actuellement. Jean-François, restez avec nous, on a Jean-Philippe qui nous rejoint depuis La Rochelle. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Comment vous réagissez par rapport à ça et notamment cette augmentation du diesel, de la fiscalité?
Moi, je trouve que c'est une manière détournée de pouvoir faire payer une augmentation de gasoil aux particuliers et puis de laisser tranquille les professionnels pour pas qu'ils bougent. J'ai uniquement ce but-là.
Oui, parce qu'on rappelle que les professionnels seront exemptés de cette hausse de la fiscalité. Vous avez raison de le souligner. Hein. Ça concerne par exemple les chauffeurs routiers, les taxis, les pêcheurs qui ont besoin évidemment de gasoil pour les bateaux. Je referme la parenthèse, Jean-Philippe, pardon. Mmh.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Surtout tout le fait, si on veut faire parler d'environnemental, à ce moment-là, on se dirige vers des biocarburants qui existent pour le diesel depuis très longtemps, à savoir quand même que le diesel, dans le temps, était prévu pour les agriculteurs et fonctionner à l'huile végétale. Donc il y a moyen quand même de faire quelque chose à ce niveau-là. Et en plus de ça, l'environnemental au niveau des cités et des villes aujourd'hui, si tous les professionnels continuent à rouler avec le diesel, l'infime partie des particuliers qui, à la limite, pourraient polluer les centres-villes, bah, elle sera compensée par le trafic professionnel.
Quand même, Laurent Hecquet, la part du diesel, elle ne cesse de descendre en ce moment sur l'achat de voitures neuves. Je crois qu'on est passé en dessous des 50% cette année.
Oui, en dessous des 50%, mais c'est encore 50% de véhicules diesel. Donc, il y a des personnes qui vont rouler pendant 10 à 15 ans encore avec des véhicules diesel. Le véhicule diesel ne va pas disparaître. Mais, somme toute, les particuliers qui n'en ont pas l'usage ne font peut-être pas le choix d'un véhicule neuf diesel. Par contre, comme le dit fort justement monsieur, beaucoup dans les cœurs de ville, on travaille aujourd'hui à la réflexion sur ce que doit être l'approvisionnement du dernier kilomètre. On peut imaginer à Paris, justement, des plateformes d'approvisionnement et l'approvisionnement des magasins ou des cœurs de ville avec des véhicules électriques. Je sais que la semaine prochaine, je suis avec l'Adréal d'Île-de-France qui réfléchit à la façon de pouvoir favoriser l'accès des artisans commerçants à ce type de véhicules propres électriques. Donc, il y a des solutions qui seront trouvées dans les années à venir. Mais voilà, pour le commun des mortels que nous sommes, demain, qu'est-ce que l'on fait ? Et on conserve nos véhicules classiques. Et puis, on peut parler de la fiscalité parce que vous en avez dit deux mots tout à l'heure. C'est vrai que cette mesure va malgré tout représenter plus de fiscalité. Je rappellerai que la fiscalité sur les carburants, c'est 31 milliards d'euros par an. 31 milliards d'euros, dont 27 milliards qui correspond à la taxe intérieure sur les produits énergétiques, donc la taxe sur les carburants, plus la TVA sur le produit hors taxe. Donc, ce n'est pas neutre dans les recettes de l'État.
Oui, donc vous voulez dire que c'était le but, en fait, au départ du gouvernement, d'augmenter les rentrées fiscales sur les carburants, plutôt que de dissuader l'utilisation du diesel ?
On peut dire que c'est les deux, mais au final, on voit très bien aujourd'hui que ça ne va pas dissuader l'utilisation d'un diesel. Il n'y a pas forcément de raison de dissuader quand il y a un bon usage du diesel, mais il est clair que ça va représenter des recettes fiscales supplémentaires et que c'était certainement le but recherché parce que l'État a besoin d'argent. Mais l'État a aussi besoin de cet argent, et Nicolas Hulot l'a expliqué, pour ses recherches sur les nouvelles énergies ou effectivement le développement durable qu'a beaucoup de futurs, effectivement. Sur la France.
Jean-Philippe, mécanicien à La Rochelle, est avec nous. Vous nous dites quoi, Jean-Philippe, que le diesel a quand même des avantages par rapport à l'essence ?
Bien sûr, il permet d'avoir des véhicules, on va dire, avec des moteurs beaucoup plus petits et aussi performants qu'un moteur à essence. Maintenant, comme je vous ai dit, le diesel à la base, c'est des huiles végétales. On peut recycler. On utilise aussi bien dans la cuisine ou quoi que ce soit pas mal d'huiles qui peuvent être recyclées. On peut faire du biocarburant. On peut se fixer sur ces objectifs-là pour permettre justement de pouvoir être, on va dire, entre guillemets, un petit peu écolo. Maintenant, il y a une autre source d'énergie qui est très très bonne et qui a quand même relativement fait ses preuves et qu'on peut très très bien diffuser. Seulement, les pétroliers vont peut-être pas être d'accord. C'est l'hydrogène.
Oui, bien sûr. Mais et Laurent Hecquet, pourquoi ça marche pas le biocarburant dont parle Jean-Philippe ? Ça prend pas ?
Il ne parle pas du biocarburant, il parle de l'huile de cuisine, notamment la réutilisation de ces huiles. Là, on est dans un contexte différent, puisqu'il n'y aurait pas cette fameuse taxation. N'oublions pas qu'un litre de carburant est taxé à peu près à 50%. Donc on voit bien que c'est important et qu'on ne va pas laisser utiliser ces huiles. Par contre, sur les biocarburants, c'est tout le gros débat d'utiliser des terres de culture pour faire des biocarburants qui vont compléter notre carburant. Voilà pourquoi les pistes qui sont recherchées, c'est par exemple le méthane, donc la décomposition, les gaz de la biomasse en qui serait transformée en gaz. Et puis, on a parlé de l'hydrogène, vous l'avez dit, monsieur, mais c'est aussi un grand débat en considérant que ça peut être une alternative, mais que faire un plein d'hydrogène, c'est pas neutre par rapport à un plein de carburant. Donc, il y a toutes ces questions qui sont en suspens, et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de pistes sont ouvertes, mais aucune solution n'est vraiment préconisée par rapport à une autre.
Laurent Hecquet, vous restez avec nous, les auditeurs, évidemment. Vous êtes nombreux à nous appeler, sujet qui vous fait réagir au 3210, la page Facebook RTL Les auditeurs ont la parole et on prolonge tout ça derrière ça.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
Qui m'a donné un fils pareil ? C'est pas possible d'être aussi bête. Ces phrases-là, vous les avez peut-être entendues dans la bouche de vos parents quand vous étiez petit. Elles vous ont blessé durablement. On évoque tous ensemble, et on compte vraiment sur vos témoignages au 3210, la violence verbale qui est pire parfois que la violence physique parce que la douleur d'une petite claque, elle s'éteint très vite. Mais ces mots-là, ils restent pour longtemps. Appelez-nous dès maintenant. maintenant. On va en parler tout à l'heure avec le docteur Lazimi qui coordonne une campagne justement pour alerter les parents.
On vous appelle au 3210 et vos témoignages, vous êtes les bienvenus bien évidemment. On prolonge le débat sur le diesel pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur la hausse de la fiscalité de ce diesel par rapport à l'essence. Laurent Eckett de l'Alliance Nationale des Experts en Automobile est avec nous. On va écouter Henri dans un instant qui nous a appelé. Laurent Tessier, d'abord de nombreuses réactions et commentaires sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole.
Oui, Sébastien n'y va pas par quatre chemins. Dans le passé, on a vendu le mérite des véhicules diesel. Aujourd'hui, augmenter la fiscalité revient à prendre en otage les propriétaires de ce type d'auto. Jean-Luc, lui, relativise. Avant de critiquer trop vite ce moteur, il serait bien de connaître son mode de fonctionnement. Pour ma part, je ne changerai pas. Frédéric parle, lui, d'hypocrisie du gouvernement. On veut nous forcer à remplacer notre matériel maintenant. On se fout de nous. Fin de citation.
Voilà les messages. Donc, la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole en direct au 3210. Henri nous rejoint depuis le Rhône. Bonjour, Henri.
Bonjour, j'espère que vous allez tous bien.
Tout pareil, Henri.
Je suis vice-président de l'association pour la forêt vierge. Je m'occupe du chef Raoni depuis près de 10 ans et je suis très concerné par tout ce qui est pollution et environnement. Mmh. Et je suis choqué par cette nouvelle loi parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les moteurs diesel sont tellement modernes qu'ils polluent moins que les moteurs essence actuels. Mmh. Donc je crois qu'une fois de plus, on se moque du monde, on cherche un moyen de taxer les particuliers. Et franchement, ça me révolte. Aujourd'hui, si vous voulez éviter la pollution des carburants ou des automobiles, il ne faut pas mener la politique qu'on mène à l'heure actuelle, on a tout faux. Qu'est-ce qui pollue Paris aujourd'hui? Ce n'est pas la voiture en elle-même, c'est les bouchons. Il faut fluidifier la circulation. Si vous fluidifiez la circulation, vous aurez moins de pollution.
Alors, Henri, restez avec nous. Laurent Eckett, Henri nous dit un moteur diesel, aujourd'hui, ça pollue moins qu'un moteur essence. Il faut quand même bien faire la différence entre la pollution au CO2 et la pollution aux particules fines.
Alors, on a plusieurs axes sur la pollution. Il y a certes le CO2 qui n'est pas un polluant mais qui entraîne le réchauffement climatique. On a les particules qui aujourd'hui sont bloquées par les filtres à particules, donc les mesures anti-pollution qui ont été mises au niveau des échappements. Et puis il y a un autre angle qui est ce gaz invisible que sont les NOx. Et comme le dit fort justement monsieur, plus on va congestionner le trafic, plus on va créer du NOx. Et donc il faudrait à l'inverse fluidifier le trafic pour éviter cette pollution. Alors, il y a aussi une autre pollution qu'on peut ajouter par rapport au véhicule. Celle-ci, elle vient pas de la motorisation, mais elle vient de l'usure des pneumatiques, donc la bande de roulement, et également les plaquettes de freinage. C'est pour ça que sur des axes très encombrés, on va avoir un taux de particules somme toute importante en raison justement de cette dégradation des outils de l'auto.
Donc, ça pollue plus ou moins aujourd'hui les diesels?
On est grosso modo dans les mêmes axes de pollution parce que aujourd'hui même sur l'essence, comme on arrive à des moteurs de plus en plus sophistiqués, il est question de mettre des filtres à particules également sur l'essence. Donc on voit bien qu'on a des véhicules qui sont aujourd'hui à un même taux de pollution, si ce n'est peut-être plus de NOx pour un véhicule diesel.
Henri, vous avez les précisions de Laurent Eckett.
Et je suis entièrement... Oui, et j'aimerais que pour une fois... Pourtant, je ne suis pas un pro des manifestations, etc., etc. Mais je pense que les deux automobilistes, avec toutes les taxes qui payent aujourd'hui, il faudrait qu'ils descendent dans la rue.
Vous seriez prêt à descendre ?
Ah oui, parce qu'on nous prend pour des imbéciles. Cette histoire de diesel, on prend les Français pour des idiots. Et en plus, je veux dire, moi, on parlait de Paris tout à l'heure. La pollution qui est en France aujourd'hui, les nuages de pollution que nous avons sur les villes, ils ne viennent même pas de France. Ils viennent d'Allemagne à cause de leurs usines à charbon.
Ça arrive parfois, pas toujours, oui, hein, mais ça arrive parfois, c'est vrai.
Mais très souvent. Alors je vais vous dire, et puis de toute façon c'est aussi un trou parce que dans 10 ans, l'essence et le gazole c'est fini. Si vous regardez Tesla ou Google, dans 10 ans tout le monde aura des véhicules électriques. Tesla vient de tester le premier prototype de véhicule volant électrique.
C'est encore un peu de la science-fiction, mais c'est
vrai. Mais non.
C'est l'avenir, mais vous avez raison.
On y vient.
Ça va venir vite, Henri, en tous les cas. Merci d'avoir pris du temps pour nous depuis le Rhône et vos appels au 3210. On salue Christophe aussi qui voulait prendre la parole depuis Lyon et qui nous précise que cette mesure est juste un moyen de faire payer davantage les automobilistes. Laurent Eckett, voilà ce que retiennent en gros les auditeurs qui ont partagé du temps avec nous.
Oui, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur un sentiment que ce n'est pas dissuasif, qu'il faudra continuer à utiliser les véhicules que l'on a achetés aujourd'hui et que voilà, c'est une rentrée fiscale supplémentaire, mais que je voudrais quand même relativiser eu égard aux petits calculs que j'ai livrés tout à l'heure aux auditeurs sur cette augmentation, sur l'impact de cette augmentation.
Vous nous rappelez 27 euros par an, hein, vous disiez. Hein, si
voilà, pendant 4 ans, ce qui fera un surcoût de 63 euros une fois qu'on aura le rééquilibrage essence-gasoil.
Voilà, débat passionnant. Merci Laurent Eyquet, directeur général de l'Observatoire Mobilité et Prospective de l'Alliance Nationale des Experts en Automobile. La prochaine fois, vous venez avec un titre un peu plus long pour que ça soit plus compliqué.
On va essayer de le réduire.
Merci à vous, merci d'avoir été là. Merci à tous ces auditeurs qui ont pris la parole parce que vous étiez nombreux. Ça se prolonge le débat, vous êtes les bienvenus. Standard ouvert au 3210 et surtout, vous allez cliquer sur le site et compte Twitter RTL Midi et sur la page Facebook RTL Les Auditeurs ont la parole.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière. Stéphane.